Bande originale avec Léla Gadeau-Boudani.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Tout à l'heure, Tanguy Massio. Et notre invité, Roberto Alagna. Bienvenue Roberto pour nous présenter ce Caruso. Comment allez-vous d'abord?
Bah déjà, à chaque fois que je viens vous voir, c'est votre anniversaire, c'est quand même incroyable.
Bah, au moins ça vous assure de venir tous les ans.
Bah, merci, c'est gentil.
Ce qui n'est pas le cas de tous les invités.
Parce que c'est toujours une fête de vous recevoir.
Oh, c'est gentil. D'ailleurs, vous savez qu'on a fini d'enregistrer hier soir une soirée de fête pour FR3. Donc j'espère que ça vous plaira et vous allez voir, c'est superbe.
Et ça passera quand tout ça?
Bientôt. D'accord. Pour les fêtes, c'est pour les fêtes.
Très bien. La nouvelle, la première question qu'on se pose, c'est comment allez-vous? Parce que c'est aussi une question que vous vous posez le matin
quand c'est dur parce que donc on a terminé très tard hier soir, on s'est couché, il était à peu près 3-4 heures. Donc ce matin, c'était dur de venir de banlieue.
Et vous avez besoin de combien d'heures de sommeil pour être en forme?
Moi, je dors pas beaucoup.
Quand vous chantez?
Voilà, je suis jamais en forme parce que je dors jamais assez. Donc moi, je dors à peu près 4-5 heures. Mais donc c'est pas beaucoup pour un chanteur. C'est-à-dire que physiquement ça va, je tiens le coup, mais vocalement de temps en temps ça fatigue.
Vous publiez un album consacré à Caruso, un artiste que vous avez toujours admiré que vous allez enfin chanter, auquel vous rendez hommage avec près d'une vingtaine de titres. Voilà, Caruso, là, c'est le titre de la chanson de Lucio Dalla.
Oui, parce que c'est emblématique aujourd'hui. Lui,
voilà, c'est ça.
C'est une chanson de Florent Pagny au départ.
De Pavarotti, c'est ça.
En fait, j'ai fait une adaptation. C'est-à-dire que j'ai mélangé deux titres. Une chanson napolitaine avec la chanson de Lucio Dalla. Parce que Lucio Dalla s'était inspiré de cette chanson napolitaine qui est Dici Donci Lovuille. Et moi, j'ai fait un mélange avec Yvan. Donc voilà, c'est une version inédite.
Que représente Caruso à vos yeux? C'est celui qui vous a donné envie de...
C'est la Rolls Royce des ténors.
Carrément.
Voilà, c'est la Rolls Royce des ténors. C'est le plus grand ténor de tous les temps. C'est le monstre complet. Et il n'y a pas mieux.
À quoi quelle est l'unité de valeur pour dire le plus grand de tous les temps?
C'est en fonction de chanter, c'est-à-dire la beauté de la voix, la spontanéité, la musicalité, mais aussi le côté surhumain de cette voix qui en même temps est simple, c'est-à-dire que nous tous les chanteurs essaient de trouver une sorte de simplicité. Quand on a réussi à atteindre la simplicité, c'est que vraiment c'est le nirvana, voilà, c'est la perfection. Ben lui, il a ça. Voilà, et en plus il y a un instrument qui est façonné par la nature mais aussi par lui-même. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, une famille modeste, pour y arriver c'était très difficile parce qu'au départ ça marchait pas. Voilà, et donc il y a une sorte de dépassement de soi qui fait que Caruso c'est le bac dans la musique, quoi.
Et même physiologiquement, apparemment il avait une bouche très très grande, des cordes vocales anormalement longues, c'est ça?
Oui, mais ça j'y crois pas trop moi. Mais c'est vrai que la capacité pulmonaire, il avait une bouche très très profonde c'est un peu bizarre quand même de dire ça,
c'est gorge profonde, c'est bizarre.
Mais je pense que c'est surtout une ossature, ossature qui fait que c'est un Stradivarius, quoi.
Est-ce que justement le physique, parce que les cordes vocales, il y en a que deux. Comment devenir...
En fait, la corde vocale, c'est pas grand-chose. C'est comme l'étincelle quand on fait
un feu.
Voilà. C'est juste l'étincelle, mais c'est tout le reste. C'est-à-dire que c'est comme dans un Stradivarius, le bois, le vernis, l'assemblage de tous ces matériaux va faire que ça va sonner d'une façon extraordinaire.
Ça veut dire que la nature
l'a doté,
donne vraiment des dons à certains et pas à d'autres.
Ben oui, c'est ce que je disais avec Albert en coulisses, c'est une programmation. Voilà, le chant c'est ça. On est programmé par la nature, mais dans tous les domaines c'est la même chose. L'athlète, le sportif, l'homme hyper intelligent, la femme super intelligente aussi. Tout ça, c'est la nature qui donne ça.
Ouais. On va revenir surtout sur votre interprétation, parce que là on parle beaucoup de Caruso, mais c'est votre voix qui est quand même heureusement présente pendant ces 20 titres, et puis de savoir comment vous avez travaillé pour vous rapprocher le plus possible de ce ténor qu'était Caruso. Mais d'abord des questions concernant la vie et l'œuvre de notre invité, Roberto Alagna. Qu'a fait Roberto après son audition au concours de chant de Pavarotti?
Il a pleuré.
Pas loin.
Il a hurlé.
Il s'est cassé la voix.
Non, il a fait quelque chose que tu fais quotidiennement.
Il fume.
Il s'est saoulé.
Il fume.
Exactement.
Presque.
Presque. Vous êtes allé boire de l'alcool fort.
Bah oui, j'étais en plein désespoir. Oui, bien sûr. C'était les éliminatoires. Je savais pas que c'était un concours. Je croyais que c'était juste une audition et je me suis retrouvé à Pesaro dans le théâtre Rossini avec des tas d'aspirants chanteurs. Et donc,
Quel âge là?
J'avais 22 ans. 21 ou 22 ans. Mmh. Et donc, tout le monde chantait deux airs. Et avant moi, Cecilia Bartoli. Et donc, elle avait chanté deux airs. Enfin, tout le monde. Et puis, moi, j'arrive, je fais une mesure. On m'arrête. Merci, au revoir. Pavarotti. Je me suis fait virer. C'était la honte, quoi. J'avais fait le voyage.
C'est violent, surtout.
Bah oui, tout parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ma famille, quoi. Je suis allé à Pesaro pour rien. Surtout, j'avais pris le train. Je suis arrivé au dernier moment. C'était le 14 juillet. Je me suis changé dans les toilettes du restaurant à côté. Vraiment. Et je suis parti à noyer mon chagrin au bar de l'opéra. J'ai été prendre un whisky. Et puis, il y a une dame qui me tape sur l'épaule et elle me dit bravo. Et je dis, ben, en plus, elle se moque de moi, quoi. Je la regarde, je dis bah bravo, merci, j'ai été éliminé sur une mesure. Il me dit non, vous savez, Luciano connaît très bien les voix de ténor, vous êtes qualifié, il avait pas besoin de plus. Ah bon, je dis mais vous êtes qui madame? Je suis madame Pavarotti, c'était sa femme.
Dites-moi s'il vous plaît à propos de Roberto Alagna, il a une collection impressionnante, mais de quoi?
Que collection? Tire-bouchon.
Non. Collection de tire-bouchons. Le mec, non seulement il boit quand il réussit ses concours,
mais en plus,
c'est en lien avec l'art lyrique ou pas?
Oui.
Des disques, des vinyles,
des partitions.
Non.
Alors, de cordes vocales.
Ça.
Non.
Collection, c'est pas mal.
Des enregistrements.
Et oui, c'est de l'opéra, mais sur quel. De quel.
De disques, de gramophones,
non,
de trucs.
Non.
Des rouleaux.
Non. Collection d'opéra, mais comment?
Des masters de...
Non.
Des tickets d'entrée.
Des programmes.
Non.
C'est de l'enregistrement?
Oui.
Ouais.
Mais il a carrément des bandes originales.
Non.
Il a acheté les chanteurs qui chantent chez lui.
Non.
Bon, les MP3, c'est pas très joli comme
non.
Collection.
Il a toutes ses performances à lui.
Des cassettes.
Oui, aussi. Mais de quoi? Il y a quoi dessus?
Des enregistrements.
Les répétitions.
Des compiles.
Non.
Des voix parlées, chantées.
Des allemandes, répétitions allemandes.
Non, c'est autour de l'opéra. Mais faites un effort si vous arrivez.
Je sais pas. Tous les opéras.
Le livret original.
Non.
Des captations.
Des enregistrements de.
Bon, oui, exactement, de vidéos et de films autour de l'opéra. Vous avez
oui, j'ai tout, je crois.
Dès qu'il y a un film qui touche à l'opéra, de près ou de loin.
En fait, je suis un vrai passionné d'opéra et de musique en général, mais plus d'opéra. Et donc, j'ai tous les enregistrements en 78 tours. J'ai aussi des rouleaux, j'ai des disques, des CD. Des
oui, mais
vinyles.
Les vidéos de films, c'est
oui,
ça
des films aussi, parce que.
Les films, Zeffirelli aussi, enfin, dès qu'il y a une scène d'opéra.
Que, vous saviez, en Italie, à l'époque, on faisait un film sur tous les opéras. Les Surpaillas, les Gardemours, les Forces du Destin, tout ça. Tout était donné au cinéma. C'était arrangé, c'était raccourci. Mmh. Et c'est par ce biais-là que ma mère, ma grand-mère, allait découvrir les opéras. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'opéra. Et donc, le cinéma était quelque chose d'important. C'est pour ça que je suis toujours.
C'est ce qui se fait aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup.
Je suis pour quand on critique les nouveaux supports, etc. Je dis non, au contraire, allez-y, parce que c'est ça qui peut aussi déclencher les passions. Bien sûr, tout à fait.
Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression, quand on n'a pas été éduqué, qu'on n'y a pas droit. On n'a pas
exactement,
accès. Exactement. C'est réservé à une caste, c'est réservé aux riches, c'est réservé à ceux qui savent.
Le monde de l'opéra. Ouais. On pense que c'est réservé à une
mais pourquoi
caste. Mais pourquoi?
Est-ce que d'ailleurs, le monde de l'opéra ne joue pas un peu à ça aussi.
Moi, je sais, parce que quand je disais à mes parents, ça serait bien qu'on aille voir un opéra, ils me disaient, mais c'est pas notre monde, nous sommes des ouvriers, c'est pas pour nous. Elle me disait ça, alors que c'était une erreur, on peut y aller à l'opéra. Mais la musique, au contraire, est faite pour tout le monde. Mm-hmm. C'est ça qui est formidable.
Par exemple, c'est
la musique populaire de son temps.
Ouais.
L'opéra, c'est la musique populaire de son temps. Ça voudrait dire que si aujourd'hui ce n'est pas pour nous, ça voudrait dire que les gens d'avant étaient plus intelligents. Ça voudrait dire plus cultivé.
Bah, on a le sentiment de ne pas être éduqué pour l'opéra pour certaines
personnes.
Mais
il faut y aller, il faut faire l'effort.
Daniel, tu veux dire ?
Non, mais à chaque fois qu'on voit des images de gens qui se rendent à l'opéra, les femmes sont en robe du soir, les hommes sont
en robe du soir. De moins en moins.
Non, c'est pas
en tout cas, venez au Stade de France, on va faire Carmen l'année prochaine. Venez au Stade de France, il n'y a pas besoin d'être habillé
en survêt.
Vous pouvez venir même en survêtement, et ça, c'est formidable, et il y aura de la place pour tout le monde. C'est quand même assez incroyable.
Je voulais parler de l'idée de ne pas applaudir pendant une représentation de musique classique ou.
Ça c'est ridicule.
Ça fait partie
quand
des codes.
Quand j'entends des machin, ça c'est vraiment ridicule.
C'est qu'il y a des gens, il y a des gens qui font la loi, qui font chute à ceux qui
parce
veulent applaudir.
Ils pensent être connaisseurs, ils ont l'impression qu'ils vont déranger. Au contraire, ça va décupler les forces des chanteurs et des interprètes qui vont donner encore plus. Même les compositeurs ont prévu. Et ils voulaient des applaudissements. C'est quand ils finissent avec les pam 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 pam, c'est parce qu'ils attirent l'applause. Ils le veulent. Et d'ailleurs, c'est ce qui faisait le succès.
Mais alors,
des opéras, on comptait les applaudissements.
Ça vient d'où ? Qui a dit non, n'applaudissez pas ?
Un petit groupe qui fait toujours. C'est les extrémistes de l'opéra.
Donnez les noms, Roberto.
Moi, je ne les connais pas, parce qu'en plus, ils se cachent, ces gens-là, en général.
Bon, dans quelle situation un peu particulière, physiquement, Roberto peut-il travailler ses partitions ?
Enroué.
Allongé.
Non,
dans son lit.
Allongé,
dans
son bain, mais.
Sous sa douche.
Allongé, d'accord.
Mais dans un hamac.
Dans son lit, non ?
Exactement.
Dans quoi ?
Dans un hamac.
Ça m'arrive l'été, hein. Pas tout le temps. Vous imaginez s'il fallait que je trouve un hamac à chaque fois que je voyage à New York et partout, ça serait difficile.
Non, mais l'idée de travailler allongé, je pensais, mais vous allez sûrement me corriger, qu'il fallait plutôt être debout.
Question de posture.
Ouais, pour la colonne d'air, qu'il vaut mieux être debout, surtout pas assis en tout cas.
Après, je fais pas une performance athlétique dans le hamac non plus. Hein. Je murmure, je mémorise, je travaille. C'est différent, c'est comme la lecture.
Donc vous chantez presque dans votre tête.
Je chantonne. Ouais. Après, ça m'arrive de chanter aussi allongé, même la tête en bas. Et, ça m'est arrivé.
Un petit côté cascadeur.
Oui. Et ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souffre un petit peu des chevilles, des genoux, les poignets. Enfin, tout est cassé.
Voilà. Quelle est la position physique dans laquelle on est le plus à l'aise pour chanter ? C'est quand même debout ?
Debout. Il y a des artistes qui adorent chanter à genoux ou assis. Ils ont l'impression d'avoir
mais
un soutien.
Assis, on me disait que ça coupait la colonne d'air.
Si on se plie en deux, oui. Ça, mais si on est assis et avec une posture quand même
droite,
ça marche.
Le diaphragme. Dans le flamenco, ils chantent souvent.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ils font pas beaucoup de contrutes.
Pourquoi sa fille Malena a-t-elle été choquée, très choquée, quand elle a vu Othello ?
Parce qu'elle l'a vu mourir ?
Parce qu'il était noir.
Parce qu'il allait.
Parce qu'il était
méchant.
C'est une question de couleur de peau.
Il allait tuer sa mère.
Exactement.
Ah ouais. C'était sa maman qui faisait Desdemone. Oui, donc elle me voyait trucider la maman. Elle m'a dit, papa, fais plus ce rôle-là.
Quelle est la première chose que fait Roberto Alagna le matin au saut du lit ?
Il s'étire, je vois.
Non.
Il chante, non. Il parle pas, justement.
Alors,
il ne dit rien.
Il
chuchote.
Non, il chante. On va prendre ça.
En particulier.
Oui,
il articule mais il chante pas.
Non, il chante. Non,
vous chantez.
C'est pas spécial.
Alors c'est pas ça.
Il salue le soleil.
C'est pas exactement chanter, mais c'est un rapport avec le chant. Ouais.
Des vocalises.
Non.
Il émet un son.
Une note. Il entamer.
Il émet un son, non. Il ronronne.
C'est un mi. Commence la journée par un.
Qu'est-ce qu'on accepte dans toutes ces réponses-là ? Parce que
oui, c'est un peu tout ça, parce qu'en fait, c'est mentalement. J'entends la note mentalement sans la faire.
D'accord.
Et je sais en pensant, en respirant comme ça, je sais que la note va être là. Donc je sais que la voix sera là.
Vous testez votre voix.
Voilà, je teste ma voix.
Vous voulez savoir si au matin, au réveil.
Voilà. Déjà, la première chose que je fais en vérité, c'est que je remercie le ciel. D'être encore là et que c'est pas seulement d'être là mais que
d'avoir
qu'un nouveau jour
d'avoir la vie que vous avez en fait
pas cette vie là mais on se rend pas compte que c'est quand même miraculeux de se réveiller tous les matins. C'est quand même formidable.
Mais pardon,
vous avez qu'on l'a fait la veille.
Vous avez peur de mourir dans votre sommeil.
Non, pas pour moi. Je trouve le fait que les planètes tournent, que y a le jour arrive, que un nouveau jour. Je trouve ça miraculeux.
D'accord.
Voilà. Tout pourrait s'arrêter. Et je trouve c'est quand même formidable de se réveiller tous les matins. Ben, on est encore là. On est encore sur cette planète. Là, tout tourne.
Il y a le soleil, il y a les oiseaux,
il y a les oiseaux.
Trop de drogue.
Voilà. Et que ça dure depuis des milliards d'années. Je trouve ça miraculeux.
Très positif.
Et pour en revenir à cette voix, est-ce que vous avez besoin d'une hygiène de vie particulière, de faire attention, j'imagine, à tous les maux que l'on peut, encore plus en hiver, tous les miasmes, les angines, les rhumes, les
soucis, oui, oui, c'est difficile, tous il faut faire attention, il faut la protéger, mais le problème c'est que, vous savez, moi je suis quelqu'un, j'ai une proximité avec les gens, et donc les gens viennent me voir, ils m'embrassent, etc. Souvent, par exemple, arrive la première, et on dit, ah c'est marrant, il a attrapé un truc à la première. Mais c'est normal, parce qu'on fait les répétitions, on est tranquille entre nous, et puis arrive la générale, tout le monde vient m'embrasser, le selfie, le machin, et trois jours après, la première, je suis malade.
Et c'est comme ça qu'on attrape des...
voilà,
mais
voilà.
Est-ce que vous faites attention en prenant, je sais pas, des huiles essentielles, en ayant
j'essaie de prendre des avec vitamines, c'est-à-dire vitamine C, un petit peu de
magnésium,
fer, de calcium, magnésium, enfin des trucs comme ça, de temps en temps. Et puis, moi, je suis obligé de prendre souvent, des anti... comme le Kestin pour les allergies,
antihistaminiques,
voilà. Donc, je suis obligé, parce que dès que c'est encombré dans la région du sinus, eh ben ça ne résonne plus. Voilà.
Ah ouais.
Est-ce que c'était... Ouais. Bref. ça va me revenir. Non. Renaud Capuçon, qui nous avait...
C'est pas chanteur,
Non, mais qui nous avait dit à ce micro que lorsqu'il était malade, d'arriver sur scène, d'un coup, il y avait comme une espèce de réflexe de son corps, où si par exemple il avait une quinte de toux, d'arriver sur scène, de prendre son violon, la quinte de toux disparaissait jusqu'au final où il ressortait et se remettait à tousser.
Est-ce que c'est le cas pour vous ? Arrive avec des douleurs.
Tellement la concentration est forte.
C'est l'adrénaline en fait, qui est une sorte d'anesthésie. Hein. Mais la différence avec Renaud, que j'aime beaucoup et qui est un ami, c'est que lui, son instrument, quand il le pose, son instrument se repose et il n'a plus rien à voir. Nous, notre instrument, là, tout le temps. Là, je suis en train de l'utiliser.
Les cordes vocales.
Vous voyez, les cordes vocales. Donc, c'est ça la difficulté du chanteur.
Faites-vous attention
qu'on n'est jamais au repos.
Faites-vous attention, justement, de préserver des jours de silence.
Oui, avant de chanter, souvent, il m'arrive de faire quelques heures de silence, de ne pas parler ou de parler moins. Il faut faire attention. En tout cas, j'essaie de jamais m'emporter, de me mettre en colère, de crier. Parce que tout ça, c'est très mauvais pour la voix. On peut, même en éternuant, on peut s'abîmer les cordes vocales. Donc c'est très dangereux.
En éternuant.
Oui, oui.
Tu cries parfois quand tu éternues.
Il suffit d'éternuer, même quand on...
De mal éternuer, en fait, c'est ça.
C'est trop fort. Moi, je sais que quand je sens que l'éternuement arrive, je le contrôle. Voilà. Je le place dans les cavités.
Vous faites quelle note en éternuant?
C'est marrant, il faut que je vérifie ça. J'y ai jamais pensé. Je vais vérifier la prochaine fois.
Pourquoi Roberto Alagna, à l'âge de 9 ans, a retiré toutes les cordes de la guitare de son papa?
Il en avait marre.
Parce qu'il voulait chanter, ouais.
Non, il en avait marre parce que papa jouait mal.
Il jouait pas très bien. lui, il s'en rendait pas compte. Il jouait son truc. Mon père, c'était plus un chanteur, quoi. Donc, il était là, il fallait faire du bruit. Bon, il faut dire que tous les autres membres de la famille, il y en a qui prenaient des tambours, il y en a qui prenaient des casseroles. Vous imaginez le truc.
Il fallait s'en sortir.
Voilà, il fallait s'en sortir. C'était qui faisait plus de raffus. Et donc, moi, je sais pas, j'adorais la guitare. Et donc, ça me dérangeait, ce truc-là. Et je voyais que mon oncle jouait bien, mes autres oncles jouaient. Et dès que mon père jouait un petit peu, ça, c'était pas génial. Donc, mais ce qui est fabuleux, c'est que donc j'ai retiré les cordes, il m'a jamais rien dit.
Oh, le message.
Et c'est fabuleux, c'est là la grandeur de mon père, la noblesse de mon père. Il a continué à jouer de la guitare en tapant dessus, sans les cordes. il battait le rythme, et là c'était bien.
On lâche rien, on lâche rien.
Roberto Alagna chante et rend hommage à Caruso. Ça file les poils quand même.
Ça file les poils.
Comment vous avez travaillé cet album? J'ai lu dans une interview que vous aviez réécouté beaucoup la voix de Caruso sans chercher à l'imiter, mais en tout cas pour vous inspirer.
Caruso me suit depuis toujours. Hein. J'ai toujours écouté Caruso depuis des années. Et dans tous mes disques, il y a quelque chose de Caruso à chaque fois. Sauf qu'ici, j'ai voulu vraiment... rendre hommage en adoptant son style, comme on adopte le style Puccini, Mozart ou Verdi.
Alors c'est quoi le style Caruso?
C'est un phrasé, c'est une façon d'émettre le son, c'est une façon de projeter la voix, c'est une spontanéité dans le chant, c'est une musicalité, c'est une façon de respirer, c'est une façon d'amener les aigus.
Vous êtes allé contre nature, vous ne faites pas du Roberto Alagna, vous faites du Caruso.
Exactement, c'est comme si je rentrais dans un costume sur mesure fait pour quelqu'un d'autre. Donc c'est très difficile, puisque chacun de nous, on a une capacité pulmonaire, une façon, un rythme cardiaque. Tout, et donc c'est très, très très difficile à faire. Et ce qui était curieux, c'est que quand on enregistre, on a sa propre voix dans notre cerveau. Quoi. On entend notre propre voix. Là, j'enregistrais et j'entendais la voix de Caruso. C'était assez perturbant. J'entendais plus la mienne. Et ce qui était difficile à faire, c'est qu'il fallait pas non plus trop se rapprocher de l'imitation parce que ça devient une caricature. C'est ce que j'avais fait il y a 10 ans. J'avais commencé ce disque il y a 10 ans. Et j'avais enregistré 10 morceaux avec Yvan. J'ai écouté, j'ai tout jeté à la poubelle. On reconnaissait ni Caruso ni moi. Voilà. Donc je me suis dit.
C'était quelqu'un qui faisait comme s'il était.
C'était autre chose. Parce que j'avais fait aussi les tics.
Ça sonnait faux pour vous. C'était
pas
sincère.
Non, c'est pas ça. C'est que j'avais imité sa façon aussi de son accent, sa façon de dire les mots, ses tics vocaux. Et ça devient la caricature. Après, c'est de l'imitation pure, et c'est pas bon, parce que le public ne reconnaît plus ma voix. Là, c'est le juste équilibre. C'est-à-dire que les connaisseurs de Caruso entendent Caruso, et ceux qui aiment Roberto, ben, ils l'entendent aussi. Voilà, donc c'est la juste mesure. Et ce qui est formidable aussi, c'est le voyage. Parce que Caruso a enregistré de 1902 à 1920. Il est mort en 21. Il était jeune d'ailleurs, il avait 48 ans. Et ce que j'ai fait, c'est on a un son moderne aujourd'hui avec la chanson de Lucho Dalla, qui est une chanson que Caruso n'a pas chantée. Et on arrive à 1902, donc on fait la chronologie inverse, à rebours. Et on finit avec un son vintage, avec une chanson napolitaine, emblématique du ténor napolitain, avec piano et avec le vieux son de Caruso. Voilà, et donc on remonte le temps et on s'aperçoit que c'est un document, en fait, ce disque. C'est l'évolution technologique de l'enregistrement et l'évolution technique
du travail de Caruso.
Vocal, voilà. Ouais.
On va réécouter quand même ce que faisait Caruso.
Ça, c'est pas lui, c'est la basse. Ça, c'est Caruso.
Peut-être que sur... Ça, c'était du Verdi. Peut-être que sur La Bohème, on va mieux l'entendre.
Alors ça, c'est particulier. Hein, je vais vous expliquer. C'est bien que vous ayez choisi ça. Je vous explique. Expliquez-nous. Parce qu'en fait, ça, c'est pas un air de ténor. C'est l'air de la basse dans La Bohème. Et dans la légende, on dit que Caruso a chanté cet air-là de dos parce que son ami... qui interprétait le rôle de Colline, était aphone. Et personne ne s'en est aperçu. Donc il a enregistré cet air, qui est un air de basse. Et c'est ce que j'ai fait aussi dans le disque, pour rendre hommage à Caruso, j'ai chanté aussi dans la tessiture de basse.
La Bohème, donc...
Voilà. Ouais. Voilà, ça c'est moi.
Ce qui est fou, c'est que Caruso a réussi à devenir un nom commun. On dit c'est
exactement.
Un Caruso. Quand
un
on
Caruso.
Voulait parler de quelqu'un et faire un compliment, on s'adressait comme ça. Et pourtant, c'était dans des années où la communication au début du siècle n'était pas celle que l'on peut avoir aujourd'hui.
C'est le premier ténor moderne parce qu'il a compris l'importance de l'enregistrement. C'est le premier à avoir enregistré autant de disques.
Il a fait
300 à peu près.
Il est aussi riche aussi d'avoir tiré une vraie fortune de ça. C'est-à-dire
oui, parce
que c'est une
bon, au départ, c'était les balbutiements de l'enregistrement et donc c'est ce qui l'a fait connaître dans le monde entier. Mais ce qui était important, c'est que la voix fonctionnait. Elle était phonogénique. Voilà. Oui. Alors qu'il y avait
Il y avait une marque Caruso, on reconnaissait.
C'est-à-dire que c'était plaisant à écouter. Alors que quand on écoute d'autres chanteurs, des sopranos, des barytons ou même des ténors avant lui, il y a quelque chose qui grince, quoi. Il y a quelque chose qui irrite, qui est pas facile, qui embellit pas la voix. Lui, non, ça fonctionne. Et donc, c'est ça qui a rendu. Et c'est le premier à avoir vendu 1 million de copies de Mattinata accompagné par le compositeur, Leon Cavallo. Donc, c'est assez fabuleux parce qu'en plus, il est contemporain des grands compositeurs qui nous font rêver aujourd'hui.
Voici le fameux Mattinato.
L'aurora di bianco vestita già ruscio di schiude al gran sole.
Donc les compositeurs travaillaient pour lui?
Oui, bien sûr.
Sur mesure, on
sait pas qu'il travaillait pour lui, mais quand il composait un opéra, on se disait, bon, on va faire ça pour Caruso. C'était quand même la star. Vous voyez, moi, j'avais pas le compositeur sous la main, j'ai pris Cassar.
Roberto Alagna est notre invité. Quand on a Roberto Alagna, Caruso et puis tous ces compositeurs, on imagine aisément, et vous l'entendez, la qualité de ces enregistrements. Le disque est à peine sorti, non?
Il est tout frais, tout chaud. Vous savez ce qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est la même démarche que lorsque on fait les opéras baroques avec l'orchestre, avec les instruments d'époque.
Musique ancienne.
Voilà, musique ancienne. C'est la même démarche. C'est comme quand on prend des métiers qui n'existent plus et on essaie de les restituer dans la. C'est comme si on faisait du feu avec des silex. Vous voyez, c'est un peu ça. Quoi.
Ça reste un travail d'artisan, donc pour
oui,
vous.
Oui, oui, oui. Et il y a quelque chose en même temps de l'ordre du documentaire dedans. C'est intéressant.
C'est plus que l'hommage, oui, c'est ça.
Voilà, c'est pas seulement un hommage. Voilà, c'est un témoignage.
Et même pour vous, il y a quelque chose de plus. Parce
moi,
que
j'ai appris énormément.
L'itinéraire aussi de Caruso individuellement, il est quand même pas si éloigné du vôtre.
Oui, c'est vrai qu'on a un peu les mêmes destinées, le même départ.
Vous commencez à chanter dans des restaurants, dans des cafés. C'est exactement votre histoire, en fait.
Oui, tout à fait. C'est un peu ça. C'est vrai. Mais bon, j'ai la chance d'être déjà plus vieux que lui.
Il travaillait dans un garage au début. Il était mécano.
Oui, il a fait un peu tout. Il transportait de la farine. Enfin, il faisait un peu de tout.
Mais il se soignait un peu moins côté voix, il était moins sérieux.
Non, au contraire.
Il buvait un peu.
C'était encore. Vous savez, à l'époque.
Il fumait.
Donc c'était à la mode. On savait pas encore que ça créait autant de problèmes. Mais il se soignait avec du pétrole. C'est quand même assez incroyable. Il faisait un mélange avec de l'éther, du pétrole.
Ouais,
le pétrole, on s'en servait à l'époque comme d'un médicament. C'était quelque chose de nouveau. Et voilà. Donc on pensait que c'était bon pour le. Et donc avant de chanter, il prenait un verre de whisky, après un verre d'eau, et puis il se pulvérisait avec un mélange d'éther, de pétrole, et à mon avis ça a endommagé un petit peu l'instrument.
Vous croyez? Roberto Alagna est avec nous jusqu'à 12h30, voici les révélations de François.
Salut les amis, salut Nagui et coucou Roberto. Nagui, en tant que chanteur, je n'ai jamais été aussi enchanté de recevoir un artiste lyrique au talent aussi merveilleux. Je ne peux pas citer tous les airs de cet album, mais tu sais Roberto, en écoutant ton Domine Deus de Rossini, je me suis agenouillé. Quand tu as entonné « Aux lumières du jour » de l'opéra Néron, je me suis mis à trembler comme une feuille. Avec la romance de Nadir, des pêcheurs de perles, tu m'avais déjà bouleversé. Mais là, en italien, tu m'as carrément fait chialer de bonheur. Alors, si les François chanteurs, dont je suis la vivante synthèse, Jean-Pierre François, François Valéry, Frédéric François, François Hardy, si les François sont nombreux, une chose est sûre, il n'y a qu'un seul et unique Roberto. Un enthousiasme que je souhaitais partager avec mes amis de la bande originale, mais quand j'ai demandé à Daniel s'il avait écouté cet hommage à Caruso, il m'a rétorqué « J'aurais préféré un hommage à la Rousseau ». Comme j'insistais en lui disant « Quand même, tu devrais écouter Roberto chanter « Mamma mia che vos sape ». Il m'a sorti « Déjà que j'ai du mal à supporter Maître Gims quand il chante sapé comme jamais, je vais mal farcir la version napolitain ». Bref, cher Roberto, ce n'est pas ici, hélas, que peut être apprécié à sa très grande valeur. Ta voix tendre et sonore comme un chant de ramier, large et nuancé à la fois, aux aigus faciles et au timbre aussi puissant que rond, exceptionnel d'élasticité, de lumière et de suavité, servi par une maîtrise parfaite du souffle, sans parler de la clarté de ta diction et de l'éloquence, sans emphase de ton phrasé qui ensoleille cet automne sinistre. Oh putain, nom d'un pipeau, ça c'est de l'éloge vibrant, pas écrit avec du sang de navet. Autre chose, me soufflait tout à l'heure Leïla, autre chose que les besogneuses démonstrations pseudo-musicologiques de Jean-François Zigel dans la preuve par Z. Et Nagui d'HD, je le cite, oui, par Z, comme zéro. Voilà, cher Roberto, malgré tout ça, bonne émission.
Merci.
Bravo. La bande originale.
Est-ce qu'on ne se met pas quand même une pression, Roberto Alagna, quand on justement se frotte à l'interprétation de Caruso et...
Oui. Bon, c'est normal. Je suis pas le premier à l'avoir fait non plus. Hein. Domingo l'avait fait avec moi.
La preuve,
avant moi.
Vous avez enregistré il y a 10 ans, vous les avez jetés. C'est-à-dire que vous vous êtes aussi mis à la place d'un amoureux de cette musique ou peut-être d'un critique, peu importe. Vous avez dit non, ça c'est pas possible, c'est pas permis. Donc vous avez fait un petit pas en arrière en jugeant votre propre interprétation.
Oui, parce que c'est pas évident de rentrer dans le costume d'un autre. C'est pas facile à faire. Je l'avais fait avec Mariano, c'était pas facile non plus.
Pourquoi ce parti pris? Pourquoi pas se dire simplement, je vais interpréter des titres, pas à sa manière, à lui, à la mienne?
Parce que ça a déjà été fait, et je trouve que c'est pas intéressant, ça. Parce que, en fait, si on écoute toute ma discographie, j'ai rendu hommage tout le temps à Caruso, puisqu'il a quasiment chanté tous les disques. Donc, il a tout chanté, les toscales et tout ça. Donc, on le fait tous. De chanter à notre façon. Mais là, ce qui était intéressant, c'était de montrer la supériorité de cet artiste. la supériorité. Et plus j'avançais dans mon travail, plus je me rendais compte qu'il était hors norme.
Ça a changé votre façon de chanter maintenant ?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc j'y pense, et de temps en temps, je suis obligé de gommer, parce qu'il y a des réflexes qui viennent maintenant. Et donc je fais attention de pas chanter à la Caruso non plus. Donc par exemple, quand je vais faire mon concert hommage à Caruso, ici au Théâtre des Champs-Élysées, je chanterai à ma façon, parce que sinon, je vais rentrer... Vous savez, ça c'est le risque. On s'habitue, on prend des automatismes, et ça devient dangereux ensuite.
Ça doit ne plus être soi, finalement.
C'est pas ça, c'est que à partir du moment où vous essayez de faire pas une imitation, mais de chanter à la façon de quelqu'un d'autre, c'est vous dénaturez un peu votre instrument. Oui, oui. Chacun de nous, on est unique. Et on a une façon d'émettre le son. C'est pour ça que la technique, on parle toujours de la technique, mais en vérité, il faudrait parler de plusieurs techniques. Chacun a sa propre technique, celle que la nature nous a donnée. Et par rapport à sa morphologie, par rapport à son corps, par rapport à l'instrument qu'on a. Voilà, donc c'est ça qui est dangereux. Il ne faut pas aller trop loin. Ça, tous les imitateurs vont vous le dire. À un moment, il y a la voix qui craque, il y a des choses qui ne marchent plus, parce qu'ils font un effort supplémentaire en essayant d'adopter le style et l'émission de quelqu'un d'autre. Oh, c'est magnifique.
Et sur votre album, sur cet album, il y a aussi des duos quand même avec votre cher et tendre.
Oui.
Alexandra Kujat, que vous allez retrouver pour le Carmen le 19 septembre.
Oui, oui, avec Béatrice Uriamonzon dans le rôle de Carmen et Alexandra fera le rôle de Michaela. Voilà, donc je suis bien entouré. Voilà, Carmen.
19 septembre, quand vous passez devant le Stade de France, c'est écrit en plus gros que Aller la France ou Aller les Bleus pour
c'est
le
assez impressionnant, je vous assure. Je suis rentré hier soir et j'ai vu cette affiche.
Impressionnant.
C'est assez impressionnant, oui.
Béatrice Uriamonzon, c'est comme ça qu'il faut prononcer. Alexandra Kujat et vous, Roberto Lagna, pour ce Carmen au mois de septembre.
Et puis,
19 septembre.
300 personnes aussi, hein. Il y a du monde, hein. Il n'y a pas que nous. Hein.
Oui, non, mais ils sont plus nombreux devant que sur scène.
Oui, aussi.
C'est pour ça que vous pouvez faire le spectacle. Voici Marina Rollman.
Aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler travail. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas vous, mais je suis débordée. Quoi. Ah. J'ai un vrai manque d'efficience au niveau de mes deadlines. Je vois que je n'arrive pas du tout à implémenter un workflow positif.
À quoi ?
Je suis vraiment sous l'eau. Quoi.
Implémenter
un workflow. J'ai l'impression que ce genre de conversation, je les ai quasiment tout le temps avec les gens de mon entourage qui bossent dans le tertiaire. Non seulement tout le monde est débordé tout le temps, en plus on invente des mots pour le dire, mais tout le monde se vante de bosser comme des dingues. T'arrives à un apéro, c'est le concours. La première, elle est là. Oh, moi, hier, j'ai fini à 22h, je suis claquée. La deuxième, elle est là. 22h, ah bah moi, je déjeunais à 22h hier, ma chérie. Ah non, non, nous, on était charrette pour boucler un dos, j'ai fini à 4h du matin. La troisième, elle est à 4h du matin. Bah moi, j'aurais bien voulu, ça m'aurait fait une pause. Hein. Non, moi, en vrai, là, je suis toujours au taf. Est-ce que vous voyez, c'est un hologramme en fait. Et là, ok, ça va aller. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que tout le monde est si fier de se faire exploiter ? Moi, j'arrive pas tous les jours en disant, pfff, là là, l'autre jour, j'ai payé un kilo de tomates 150€, j'ai dû leur donner un peu de moelle osseuse, mais ça valait le coup, tu vois, je comprends pas. Moi, bon, je crois qu'on le sent tous avec différents symptômes selon les secteurs d'emploi et les régions. Le capitalisme est un petit peu en bout de course. Hein. Sauf que le nœud du truc, c'est la valeur par le travail, la fierté par le travail, voire l'identité par le travail. Si je bosse beaucoup, c'est que quelque part, je dois être une bonne personne. Donc, même si on sent bien que ça a de moins en moins de sens, faut continuer pour ceux qui ont la chance d'avoir du boulot à mouliner comme des dingues comme ça. Sauf que selon les secteurs, c'est pas toujours nécessaire. Donc tu te retrouves à justifier ton taf par des contorsions, mon ami. Moi, je le sais parce que avant de faire de l'entertainment, j'ai bossé dans la com, dans la prod, dans l'event. Et ce que tous ces métiers ont en commun, c'est qu'a priori, si le descriptif de ton métier peut se faire avec un mot anglais ou un diminutif, t'es pas en train de sauver des vies. Hein. Quand quelqu'un fait un malaise dans un lieu public, personne n'est là. Y a-t-il un consultant en medicining dans la salle ? Un doc ? Quelqu'un qui bosse dans le care ? Non, personne. Moi, j'ai pu constater donc de ces différents boulots qu'on avait toujours des trucs à faire, tout le temps, moi, quand je bossais dans un truc, mais qu'il fallait pas trop aller gratter sur pourquoi on devait le faire. Ça devient assez vite kafkaïen. Tu te retrouves à faire des réus pour débrief la pré-réu qui va te permettre d'en tirer un PowerPoint pour briefer le client sur le process interne de l'enculage de mouche, finalement, à un moment donné. mais il faut l'admettre. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'un tiers du PIB français est généré par des réunions, quand même. Et je blâme pas du tout les gens qui font du tertiaire. Moi, je fais des blagues. C'est pas clairement. Si un jour, je veux dire, on doit envoyer l'élite de la planète sur Mars, je vais pas faire partie du contingent. Hein. Ils seront pas là. Il nous faut des biologistes, des géologues et quelqu'un sait faire des blagues sur le malaise des urbains occidentaux postmodernes. Hein, des blagues sur les food trucks et la perte de sens. Oui, moi, je le fais bien. Donc voilà, je me mets pas au-dessus des gens qui bossent dans des bureaux, mais en voyant parfois comment ça marchait à l'interne, j'étais vraiment hyper étonnée qu'on n'ait pas encore des gens avec des fourches en bas. Vraiment, quoi. Quand tu bosses dans la com, je suis surprise qu'il n'y ait pas des gens avec des pics et des flammes qui disent « Rendez la thune des réus !» ou « Laissez-nous venir en faire avec vous !» Mais je sais pas, quoi. En plus, souvent, ce genre d'activité s'effectue dans des bureaux en open space. Oh là là. Quand tu visites le premier jour, t'es fasciné. Tu trouves ça super progressiste. La meuf qui te fait visiter, elle est là, ouais, ici, nous, on croit pas trop à la hiérarchie, à la distance. On avait envie de créer un truc convivial, généreux, ouvert. Enfin, surtout, on n'avait pas envie de payer pour des cloisons. Et très vite, tu découvres le drame de l'open space, les tragédies communes et partagées que ça implique. Entendre la vie, les désirs, les drames de chacun de tes collègues. Toute la fucking journée, c'est trop, on n'est pas prêt. Moi, ma préférée, c'était la collègue qui avait faim, tout le temps. Tu sais, qui est là à 10h du matin, il y a faim, quelqu'un pour grignoter un petit truc, non, quelqu'un m'accompagne, un pain au raisin, non, personne, une petite faim. Au bout de 3 mois, je pétais les plombs, j'étais en pleine crise existentielle, j'étais là, non, Cécile, personne n'a faim. On a mangé à 8h, on va remanger à midi. Entre deux, on est vissé à une chaise pour essayer de trouver un prétexte pour foutre toute la boîte en copie d'un mail pour justifier notre existence. Donc non, on n'a pas faim. Et même toi, t'as pas faim, Cécile, t'es juste triste. Voilà, tu comprends pas que le système est foutu, qu'on va tous crever. Et Cécile était là, mais ça veut dire qu'on fait pas la soirée team building au bowling. Enfin, je veux dire. Quoi qu'il en soit, si vous nous écoutez au bureau, bon courage et surtout bonne chance pour cette réu qui arrive là bientôt. Tout le monde est en train de
la bande originale. Sur France Inter.
Notre invité, Roberto Alagna, rend hommage à Caruso. Il a fallu faire des choix aussi.
Oui, c'est pas évident quand il y a 300 disques. Ouais. Oui, donc j'ai voulu faire une rétrospective, mais aussi
au-delà du côté chronologique à rebours.
Aussi mon goût personnel. Voilà. Et puis je voulais montrer un peu l'éclectisme de Caruso dans le répertoire, qui va des chants des traditionnels anciens au baroque, en passant par les chansons de son époque, des chansons composées vraiment pour lui, de la chanson napolitaine, les airs d'opéra, les duos, les trios. Voilà, il y a un peu de tout. Et puis aussi bien sûr, cette nouvelle chanson de Lucio Dalla que j'ai adaptée pour pouvoir mettre dans ce disque, sinon ça fonctionne pas. C'est quand même une chanson pop et qui fonctionnait pas avec tous ces airs là. Ce qui est intéressant aussi dans l'orchestration, pardon, c'est que vous savez qu'à l'époque de l'enregistrement de Caruso, les cordes ne passaient pas très bien dans les cornets, donc il fallait les remplacer par des cuivres. Et c'est bizarre, donc de refaire les partitions des compositeurs et de rajouter des cuivres, du tuba, enfin c'est assez impressionnant. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec Yvan. Donc on a rajouté des cuivres, on a enlevé des cordes. Et voilà, donc c'est un travail. Et puis aussi le tempo, parce que comme c'était sur de la cire, il y avait un temps limité.
En 78 tours, on n'avait pas le temps de tout mettre.
Voilà, de tout mettre. Donc quand
ils accéléraient
des morceaux, on coupait, on allait vite dans les tempi et tout ça. Et ça donne une urgence qui est assez impressionnante. Ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, ma scioglio sangue di
Roberto Alagna chante ce Caruso sur son nouvel album, mais Roberto Alagna, écoutez, dans les années 70, début des années 80. Ça pourrait être la bande originale de Casa de Papel aussi. Hein.
Tout à fait. En fait, c'est mon père qui était mon premier héros. Hein. C'était lui que j'écoutais au départ. C'est à la maison, il chante les chansons traditionnelles siciliennes. C'est un chanteur exceptionnel. Il a un répertoire qui n'en finit pas. Et moi, je suis petit enfant comme ça, émerveillé d'entendre mon père, même si je lui retire les cordes de la guitare. Voilà la cruauté du fils.
Vous n'avez pas retiré les cordes vocales.
Voilà. Mais voilà, c'est ce que j'entends. C'est toutes ces chansons qui ont fait ensuite le disque sicilien qui a été un grand succès. et dont je suis très fier.
Et on le disait tout à l'heure, vos débuts, c'est à la pizzeria, quoi. C'est devant les clients, enfin les premières scènes. Vous êtes engagé, vous avez une quinzaine d'années.
Oui, j'ai 15 ans quand je commence les pizzerias, mais très vite, à 17 ans, je deviens professionnel dans les cabarets avec mon groupe, avec mes musiciens.
Des musiciens colombiens.
Il y avait au départ les Colombiens et ensuite Mexicains, Espagnols, enfin tout cette communauté un peu sud-américaine.
Vous y repensez quelquefois?
Ah oui, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps.
Au Stade de France, vous allez vous demander combien il y a de Margarita, combien
il y a de... bien sûr qu'on y pense, parce que c'est un chemin qui est magnifique. Oui, et puis c'est beau, quoi. C'est beau parce que c'est l'insouciance, c'est la jeunesse, c'est la découverte de tas de choses, c'est la découverte de la vie aussi. Vous imaginez, moi, c'est là que j'ai...
Vous dites que c'est de la chance ou c'est du travail?
Ah oui, il y a beaucoup de travail, mais il y a de la chance, bien sûr, d'être là à ce moment-là, c'est sûr. Mais vous savez, la chance, il faut la provoquer, et puis il faut surtout la servir, parce que sinon, elle s'en va vite ailleurs. Hein.
Et vos débuts aussi, c'est à Paris, c'est dans des cabarets, c'est chanter toute la nuit, un vaste, vaste répertoire, beaucoup de choses.
Oui, c'était énorme.
Dans des milieux qui ne sont pas forcément toujours très bien fréquentés.
Oui, bien sûr, c'est le milieu de la nuit, donc il y a un peu de tout. Et pour un adolescent comme moi, c'était assez difficile. Mais bon, ça m'a appris
des réseaux.
oui. Vous savez que j'ai même chanté dans des boîtes à striptease, donc c'est là que j'ai découvert pour la première fois des femmes nues. C'était quand même assez... Je le raconte dans mon livre.
Mais votre oncle était avec vous, je crois. Hein,
oui, il y avait mon oncle. Oui, mais mon oncle, vous savez, il est plus jeune que moi.
Il a
40 jours de moins. Donc c'est quasiment mon frère jumeau.
Mais vous chantiez dans plein de langues en plus, forcément toutes les maîtriser d'ailleurs.
J'en maîtrisais pas mal, puisque moi j'en parle 6 maintenant.
Mais à l'époque,
j'entendais beaucoup de langues, puisque c'était les touristes. Donc il fallait au moins, dans les 70 chansons qu'on chantait, avoir au moins une chanson de chaque pays.
Ah oui.
Donc dès qu'on voyait le touriste arriver, hop, allez, là ça passait.
Ça c'est en allemand.
On chantait en arabe, on chantait en hébreu, on chantait en espagnol, en américain, enfin tout quoi.
Est-ce qu'il y a eu un jour dans votre vie où vous avez le sentiment que tout a basculé?
Non, en fait non, parce
tout
que
tout s'est fait progressivement.
Oui,
à
en fait, j'ai jamais rien demandé. C'est ça qui est assez incroyable. Et tout ce que j'ai reçu, c'est beaucoup plus.
Vous êtes battu quand même pour être là où vous en êtes aujourd'hui.
Oui, mais je me suis battu avec moi-même parce que les choses sont. Je me suis même des fois éloigné de ce métier et il y avait quelque chose qui me ramenait tout le temps. C'est comme si je prenais des chemins de traverse et puis hop, on me remettait sur le bon chemin, quoi, le chemin de l'opéra. Mais c'est curieux parce que j'étais un enfant timide et donc je n'osais même pas rêver. Oui. Ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup plus que ce que j'avais rêvé.
C'est à quoi vous attendiez?
Il faut dire que vos parents voulaient pour vous un métier propre.
Oui, ma mère a toujours peur. Elle a toujours peur. D'ailleurs, je pense à elle là, parce qu'elle est à l'hôpital, la pauvre. Elle s'est fait opérer 2 fois en une semaine.
On l'embrasse.
Donc, je l'embrasse beaucoup et voilà. Donc, elle a toujours peur. Elle a toujours peur et elle me dit tout le temps :« Mais ah là là, t'aurais dû faire un métier tranquille. Tu rentres à la maison le soir.
» Il y a quelques signes qui peuvent rassurer.
Oui. Elle est très fière.
Un métier propre aussi.
Oui, un métier propre. Ça, le métier propre, c'est parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de maçons. Et puis on avait un oncle qui était devenu chef comptable. Ouais. Donc lui, il revenait en costume cravate et il disait, mais il faut que tu fasses un métier propre comme Salvatore.
Sauf que lui, il est en open space maintenant. Ouais. Il fait des PowerPoint.
Des
en 97, c'était pas la bohème de Puccini que vous écoutiez, mais la bohème d'Aznavour.
La bohème, la bohème, ça voulait dire...
La chanson.
On est heureux. La bohème.
Qu'est-ce que...
C'est une chanson magnifique.
Qu'est-ce que vous évoquez? C'est Aznavour qui vous
c'est
touche,
tout, c'est
son interprétation.
Tout me touche. En fait, vous savez qu'au départ, c'est une opérette. Non, c'était Guettari qui chantait dans Monsieur Carnaval. Voilà, dans Monsieur Carnaval, c'est un air d'opérette. Et ensuite, c'est devenu le succès qu'on connaît avec Aznavour. Moi, Aznavour, vous savez que je l'ai connu, on a été voisins, on est partis en vacances ensemble. C'est quelqu'un que j'ai adoré, on était très proches. Et j'ai même chanté cette chanson avec lui. On avait enregistré cette chanson et puis elle est jamais sortie. Bon, moi je la possède cette chanson.
Ah oui, c'est un document.
Ouais, c'est dommage parce qu'elle est très belle et on avait fait ça ensemble. Ensuite, j'ai eu l'occasion de la chanter sur scène moi-même. Mais je trouve que cette chanson, c'est ma vie aussi. C'est ce qu'on était quand on était gamin, quand on rêvait. On était, on n'avait pas d'argent, mais on se fichait de tout. On savait qu'un jour, bon, on aurait ci, on aurait ça. On rêvait. Et c'était fabuleux, moi, de me retrouver dans ma banlieue et puis de savoir que peut-être qu'un jour, j'irai à...
Alors, vous dites on n'avait pas d'argent. Ça veut dire on se contentait de ce qu'on avait ou on rêvait d'avoir plus?
Non, moi, j'ai jamais rêvé d'argent. Et je vais vous dire un truc, j'ai connu zéro dans les poches. pendant des mois. J'avais zéro. Impossible de demander de l'argent à mes parents. C'est pour ça qu'après j'ai fait des restaurants, des cabarets, parce que on n'avait pas, on n'a jamais eu de bourse.
Par fierté de pas demander.
Ça se faisait pas. Je sais que mon père travaillait, il était tout seul à travailler. Ma mère avait les enfants, elle gardait des enfants et tout ça. Bon, c'était un travail énorme. On était une grande famille. On n'a jamais eu de bourse, jamais d'aide de l'État, jamais rien. On s'est débrouillé par nous-mêmes. Mon père travaillait jour et nuit, toute la semaine. Et souvent, moi, ça m'arrivait de rentrer de l'école et d'avoir un camion à décharger parce que pour que mon père puisse travailler la semaine. Vous voyez, donc j'avais 10 ans. Donc j'ai connu tout ce truc-là. Mon père a commencé à travailler à 6 ans. C'était difficile. Donc j'ai connu ça, j'ai connu vraiment d'avoir zéro dans les poches.
Comment vous avez transmettre ces valeurs à vos enfants, sachant qu'ils ont la chance d'être élevés sans avoir à décharger des cagettes à 10
voilà,
ans.
Ben, on en parle en transmettant ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai fait aussi ce disque sicilien, pour savoir d'où on vient, qui on était.
Pas oublier.
Moi, on est arrivé en France. Vous imaginez que mon grand-père est arrivé en France parce qu'il voulait rembourser un crédit qu'il avait fait pour acheter une chambre à coucher. C'est comme ça qu'il est arrivé en France, pour pouvoir rembourser. Et puis ensuite, il a vu que ses enfants mangeaient à leur faim. Il a dit, bon, écoute, on reste. Voilà. Mais je me souviens, c'était tous les ans, on disait, bon, l'année prochaine, on s'en va. Et puis, on est resté.
Et puis, vous êtes resté.
Et puis, on est heureux d'être là.
Et ouais. Et en 97, pour reprendre cette année-là de votre vie, c'est votre première victoire aux victoires de la musique classique.
Oui, oui.
C'est le début d'une longue histoire avec les victoires. Là, c'est l'artiste lyrique de l'année. C'est une récompense qui veut dire beaucoup dans le métier.
Oui, surtout que moi j'arrivais de nulle part, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore je dérange énormément parce que je fais pas partie. Enfin, vous savez, on dit qu'il faut avoir la carte, etc., etc. Moi, j'ai jamais eu la carte. Non, moi je suis à part, je suis une sorte d'ovni dans ce métier.
Vous êtes la carte.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Croyez-moi.
Il y a du snobisme.
Je suis toujours un petit peu à part, toujours attaqué, toujours
pas aimé.
Dans tout.
Non, vos premières.
Je suis aimé du public, c'est ça qui est formidable. J'ai un public qui me suit depuis maintenant 36 ans, c'est quand même assez incroyable. Mais souvent, les critiques, les journalistes, les soi-disant spécialistes, les fameux, je sais pas, puristes, tout ça.
Et qu'est-ce qu'on reproche ?
On a du mal. Mon côté atypique, mon côté venir de nulle part, mon côté touche à tout, mon côté franc, mon côté rital aussi.
Il y a ça. Carrément.
Ah, oui.
Tes côtés populaires aussi.
Il y a quelque chose. J'ai jamais réussi à comprendre. Ouais. Alors,
On va demander à Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour France Inter. Bonjour Nagui.
Bonjour France Musique. Vous êtes donc dans la matinale de France Musique. Musique Matin, du lundi au vendredi de 7h à 9h. Là, pratiquement, c'est le début.
C'est l'heure d'aller se coucher.
C'est le début de la nuit pour vous, à 11h52. Roberto Alagna disait qu'il n'avait pas la carte et qu'il n'était pas aimé de tout le monde. Et là, je vous voyais hocher la tête en disant, ouais, en effet, il y a des gens qui ne l'aiment pas.
Qu'est-ce
qu'on lui reproche ?
C'est le cas avec beaucoup de ténors, mais c'est vrai que c'est le cas avec certains ténors qui ont plus la carte que d'autres, peut-être. Non, c'est vrai, peut-être le côté populaire et puis le côté franc-parler aussi. C'est vrai que Roberto, vous l'avez entendu depuis 11 heures, il ne mâche pas ses mots, il dit ce qu'il pense, et parfois il y en a qui sont plus réservés.
Donc, le côté star aussi.
Des phrases aussi, parfois, quitter qu'on n'aime pas un metteur en scène, qu'on n'aime pas sa mise en scène.
Non, je ne l'ai jamais dit ça. Non. Au contraire, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de mises en scène que je n'aime pas, mais une fois que je suis dedans, je les défends tout le temps. Tout le temps. J'ai fait le roi Artus que je n'aimais pas du tout, j'ai défendu comme je pouvais. Il y a des tas de mises en scène que je n'aime pas.
Mais avez-vous déjà quitté une scène énervée ?
Jamais. Et j'ai toujours eu un excellent rapport avec les metteurs en scène. Même maintenant avec Don Carlos, qui était une production un peu difficile, on a eu un super rapport avec le metteur en scène, il était super content, et voilà, et j'ai essayé de défendre sa production à ma façon.
Alors parlons de Caruso, s'il vous plaît, Jean-Baptiste, on a essayé de le définir depuis le début de cette émission. Pour vous, le spécialiste, qui était Caruso ? C'était vraiment un être à part ?
Je suis sûr que je suis beaucoup moins spécialiste que Roberto, qui le connaît sur le bout des doigts. Oui, c'était un être à part. C'était une star, peut-être la première grande star de l'époque, grâce au disque, vous l'avez évoqué, parce que au-delà de toutes les musiques, c'est le premier à avoir enregistré. On est en 1902, il va enregistrer de la musique classique, du lyrique, mais aussi des chansons.
Alors,
dès le début.
Très bien, on devient star, mais comment rester star ? Comment rester mythique ? Comment rester culte à travers les siècles, justement ?
Alors là, on a un siècle pour voir, on verra plus tard, mais sur un siècle, en tout cas, je pense qu'il y a, c'est une recette, en fait. Il y a à la fois cette voix incroyable, on dit le ténor du siècle, la plus grande voix de tous les temps, et puis il y a une vie, des circonstances, en effet, l'histoire du disque, il y a le fait d'avoir accepté de faire des choses populaires et d'être écouté par le plus grand nombre.
Mais je crois que c'est pas explicable, c'est inexplicable. le cas Caruso ou ce niveau-là. C'est, si vous allez sur YouTube aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant, il y a des millions de vues sur Caruso. Il n'y a personne d'autre, dans les grandes stars des ténors du passé, même Callas et tout ça, personne n'a autant de vues que Caruso. C'est quand même assez impressionnant. C'est lui qu'on utilise dans Matchpoint, Woody Allen, pour faire la bande sonore. On a construit un théâtre dans la jungle pour lui, un dingue.
Alors vous parlez d'Internet. Si Internet avait existé à l'époque de Caruso, il aurait eu son affaire MeToo aussi, Jean-Baptiste.
Alors c'est ce qu'on dit. Hein, il y a eu une histoire avec une femme mariée.
Oui, dans un zoo, mais bon, c'était.
On n'a jamais su l'histoire d'ailleurs de cette femme.
Il paraît qu'il aurait mis la main aux fesses dans un zoo d'une une femme. On a su que c'était on voulait faire de la publicité, vous savez.
Sa vie privée était exposée.
Il a eu une vie tumultueuse. Il a été marié plusieurs fois. Ouais. Mais bon.
Ça fait partie de la légende aussi, oui, d'ailleurs. Exactement.
Alors, la légende, il chantait avec ou sans micro ?
Ah là, il a chanté devant cette espèce de cornet où tout le monde se mettait autour, y compris des instruments à cuivre plutôt que des contrebasses pour qu'on puisse entendre tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a chanté dans des salles immenses,
au Yankee Stadium
à New York, paraît-il, sans micro et sans ampli.
Il y avait un micro à Madison Square Garden, mais c'était les débuts du micro. Mais c'est normal. Il y avait 100 000 personnes. Il était à l'extérieur. Donc,
et il a connu quand même le succès de son vivant. Il est mort jeune, on l'a rappelé tout à l'heure.
48 ans.
En pleine gloire.
Il a fait des films.
En pleine gloire. Et puis, alors, il avait dit qu'il allait arrêter à 50 ans. Il est mort 2 ans plus tôt.
C'est pas ça, c'est qu'en fait, il était très attaqué. Très, très attaqué. D'ailleurs, quand vous lisez la correspondance de Caruso avec son épouse, sa dernière épouse Dorothy, c'est incroyable de voir cet homme qui est la star internationale, qui doute de tout. Il écrit à sa femme, aujourd'hui, j'avais un chat dans la gorge, j'ai raté cette note, machin, je suis fini, machin. Il va voir Tito Skipa.
C'est le cas de la Callas aussi.
Il va voir Tito Skipa, qui était un nouveau ténor. Il va au récital, il s'en va à la moitié parce qu'il dit, il est meilleur que moi, il en avait presque honte. Donc voilà, c'est le côté humble en même temps.
Et rempli de doutes.
Rempli de doutes. C'est fabuleux de voir cette correspondance avec son épouse. En fait, il est hyper humain et il sait où il va. Il sort de l'opéra. Les Italiens sont là. Ils n'ont pas pu prendre un billet. Ils n'avaient pas d'argent. Ils montent sur le toit d'une voiture et ils commencent à chanter pour eux. C'est fabuleux. Quoi.
Vous diriez quoi à un enfant de 8-9 ans, Jean-Baptiste, si vous deviez parler de Caruso ?
Je dirais que c'est quelqu'un qui avait ce naturel. En fait, il y a ce truc chez les ténors, que ce soit Roberto, que ce soit Caruso.
Non, mais pourquoi un enfant d'être touché, d'être ému par une voix, un enfant de 8 ans qui n'a pas encore écouté d'opéra. Vous avez dit, il faut que je te fasse écouter Caruso parce que
au-delà des petits crachements qu'on entend sur des enregistrements aujourd'hui, il y a quelque chose qui passe et un effet qui est indéfinissable. Et quand on écoute, malgré ce son qui est très différent du son d'aujourd'hui, il y a ce truc indéfinissable de naturel qui accroche tout de suite l'oreille et qui accroche aussi quand on est contre Roberto.
Moi, je dirais encore autre chose. Je dirais à ces enfants, vous connaissez Spider-Man, vous connaissez Robin des Bois, vous connaissez Zorro. Eh ben, écoutez, Caruso, c'est encore plus fort. Il chante mieux.
Non, mais c'est la première des stars.
Je sais pas si ça marche complètement, ça, Roberto.
Ouais, c'est la première. Non, mais c'est vrai. Jean-Baptiste a raison. C'est la première.
Grâce au disque.
Absolument. Et aux enregistrements. Musique Matin, c'est de 7h à 9h, du lundi au vendredi, sur France Musique. Merci, Jean-Baptiste Urbain, d'avoir.
Demain matin.
Veillez pour venir à ce micro. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous allez nous parler, vous, de l'affaire Polanski.
Ah oui, parce que ça fait 3 jours que partout il y a ce débat. Peut-on distinguer l'homme de l'œuvre qu'il crée ? Ça sent le sujet dans 8 mois au bac de philo, les jeunes. À mon avis, c'est pas la peine de réviser le thème nature et culture. Et sur ce débat, Nagui, tout le monde donne son avis. C'est ça qui est fatigant avec la démocratie.
Donc vous avez donné le vôtre, évidemment.
Oui.
On en parle après les
autres. On en fait plus. Il est épuisé.
Après les infos de midi. Avec Yannick
Adobou,
Marina Rollman, Daniel Morin,
bonjour toi,
Albert Azou,
bonjour,
Tanguy Pastureau, bon et notre invité Roberto Alagna.
Bravo, bravissimo.
Le 6 février prochain, en 2020, déjà, comme le temps passe vite, vous interpréterez,
c'est dur comme mot,
cet album,
c'est vrai.
Caruso 1873, parce que c'est
l'année de naissance de Caruso.
Sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, comme vous l'avez dit, ça sera pas forcément la même interprétation que là.
Oui, ça sera un peu différent.
Ferez-vous tout l'album, parce qu'il est très riche cet album.
Il y a, et puis en plus, il y a 20 titres, ouais, c'est assez copieux. Et, mais c'est fantastique. Tout à l'heure, vous avez mis un petit bout de Parce que, qui est Because en français. Et ça, c'est intéressant.
Écoutons-le.
Voilà, c'est ça.
Parce que Caruso parlait français ?
Voilà, il parlait français, et donc il a enregistré beaucoup de choses en français. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le compositeur Guy Dardelot, en fait, est une femme.
Ah.
Voilà, c'est Hélène Guy.
D'accord,
voilà.
Je ne savais pas.
Et c'était une femme, et donc Caruso a enregistré les deux titres, en anglais et en français. Et j'ai choisi la version française.
Ça, c'est Leïla qui a choisi.
J'adore, celle-ci, elle me tue.
Est-ce que vous pensez qu'il faut une condition particulière, un climat particulier pour écouter cet album? Vous aimeriez que votre auditeur soit, ou auditrice soit...
Non, déjà bien sûr de l'écouter par curiosité pour savoir ce qui s'est fait avant, qui était Caruso, se renseigner sur lui, c'est assez formidable parce qu'on fait, c'est quelque chose comment dire, c'est d'une richesse culturelle énorme, mais aussi ensuite de l'écouter comme ça, juste par plaisir.
Mais quoi, avec un casque, on se balade dans la nature,
n'importe où, en voiture,
ou sous une couverture au chaud à la maison, ou près,
écoutez-le
près
comme ça, laissez-vous on part avec lui, avec Caruso. Moi, en tout cas, je sais que ce disque m'a fait énormément de bien. Donc, ça fait longtemps que je l'avais en moi. Voilà, oui, aujourd'hui, il est là. Je suis fier de l'avoir fait parce que c'est quelque chose de vraiment difficile à faire. Je vous assure que ce n'est pas évident. Et voilà. Et en tout cas, je remercie bien sûr toute l'équipe qui m'a donné l'occasion de le faire et qui, comme Yvan Cassard, qui m'a permis de réaliser le.
L'Orchestre national d'Île-de-France.
Vous savez, c'est très difficile à faire parce qu'on a 4-5 séances maximum qui durent une heure et demie. Hein. Donc, vous imaginez un travail comme ça à faire. Donc, c'est vraiment.
Parce qu'il y a des services aussi.
Il y a des services. Ouais. Il y a des pauses et donc c'est très 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 court et donc on n'a pas droit à l'erreur, il faut y aller, il faut mettre tout son cœur dedans et je vous assure que de chanter à la façon de Caruso, c'est très difficile. On s'aperçoit qu'il est vraiment au top.
Pas de droit à l'erreur pour lui non plus, c'est Tanguy Passion. On parle beaucoup en ce moment, Tanguy, de Roman Polanski.
Oui, alors qui est Roman Polanski pour l'auditeur dépourvu de culture générale qui sur Inter écoute juste la bande originale parce que là, il comprend tout. Eh bien, c'est un réalisateur mythique qui a fait Le Bal des Vampires, un biopic sur Cédric Villani qui danse. Rosemary's Baby, une dame donne naissance au fils du diable, donc quand on est parent, on appelle ça plus simplement donner naissance à un enfant. Hein. Mais aussi La Neuvième Porte, l'histoire de Stéphane Plaza qui à Melun doit revendre un pavillon avec beaucoup trop d'entrées, enfin c'est bon ça. Je crois. Bref, pas mal de films torturé. Si c'est Polanski qui avait réalisé Camping 3, on aurait retrouvé Patrick Chirac pendu dans le bloc WC avec le soutien-gorge de Miss T-shirt humide. Accessoirement, il est accusé de viol sur mineur à la même régularité qu'on accuse le chat de mon oncle d'avoir fait caca sur le sofa. Une cinquième dame, il y a peu, a dit qu'en 75, Polanski l'a violé. Mais il y a ce délai de prescription à la con. Hein, en France, il faut que le viol date de moins de 10 ans, 20 ans quand c'est sur mineur. Du coup, il est accusé, mais jamais jugé. C'est plus flou que la discographie d'Evangeli. Et donc, il sort des films dont son dernier film France Inter, hein, parce qu'ici, on arrive à distinguer l'homme de son œuvre. La radio sera aussi partenaire de la réédition de Mein Kampf en 2020, tout en prenant ses distances vis-à-vis de la personne d'Adolf Hitler, qui, précisera-t-elle, n'a pas fait que des trucs chouettes. C'est compliqué, cette histoire de l'homme et de son œuvre. Regardez Michael Jackson, tout ce qu'on a dit sur lui, que quand il se retrouvait dans un centre aéré, il se mettait à crier le dernier à poil, il n'a pas de Kinder Bueno. Avant d'ajouter le Kinder Bueno, indice, je l'ai sur moi. Et ben quand le DJ met Billie Jean, on se met tous à danser, les victimes, on s'en tape, nous sommes des crevures, vous, moi, mais aussi Nadine Trintignant. Hier, invitée sur BFM, elle a plus dérapé qu'une 306 à la colonne de direction cassée conduite par un malvoyant. On lui demande son avis sur l'affaire et là, elle déclare « Actuellement, en Europe, il y a un antisémitisme sournois qui se réveille, c'est pas le moment d'accabler Polanski. L'argument le plus absurde de l'histoire des arguments, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Frapper un enfant, donner du chocolat noir à manger un teckel, faire danse avec des stars nues, ce qui permettrait peut-être de relancer le projet. programme. Juste parce qu'il est juif, on ne devrait rien dire. Cette dame ajoute, ce ne serait pas Polanski, on lui ficherait la paix. Alors qu'à mon avis, parce que c'est Polanski, il est plutôt protégé. Vous êtes intermittent sur la comédie musicale Le Roi Lion, sainte accusation de viol remonte, on va pas dire distingue-l'on de son œuvre, parce que tout de même, il fait super bien la voix de Pumba, le facochère. C'est le génie de Polanski qui fait que tout glisse sur lui. Patrick Deal, 189, il avait juste trois coloriages du journal de Mickey à montrer à la police. Direct, ils l'ont accusé à tort de meurtre commis par Francis Holm. Enfin, Madame Trintignant dit, il a une femme magnifique, pourquoi il irait voir ailleurs? Mais on parle d'un viol datant de 75, sa femme Emmanuelle Seigné avait 9 ans. Donc même si elle avait sûrement une gentille petite bouille, j'ose espérer qu'il n'était pas déjà en couple.
Et la sortie du film J'accuse de Polanski est donc très mouvementée.
Ah oui, parce que les acteurs ont annulé la promo, Jean Dujardin est dans le film, on l'a moins vu cette semaine, Yvette Horner qui pourtant est décédé l'an dernier, Louis Garrel, l'acteur ténébreux qui n'a encore jamais souri. Pareil, il a zappé la promo parce qu'ils sont tous moins à l'aise là-dedans qu'un identitaire blanc dans une soirée Zouk Love. Eux, ils font le distinguo entre l'homme et son œuvre, mais ils savent que certains dans le public n'ont pas cette souplesse d'esprit. Moi, par exemple, j'ai du mal, c'est pour ça que je boycotte Kev Adams, parce que je me dis, il a quand même fait Aladdin et Aladdin 2, comment dépasser ça et considérer l'homme? Bon, ben Polanski, c'est le contraire, on devrait juste regarder son film et ne pas du tout penser à lui. Quand son nom apparaît à l'écran, se cacher les yeux, se dire « Non, c'est un film Pixar !» et dire à la dame à la caisse du cinéma « Bonjour, je voudrais que l'argent du ticket aille intégralement à Louis Garrel afin qu'il s'achète des Xanax. » Mais c'est impossible parce que son œuvre n'est pas un truc séparé de lui. Si un primeur qui a la gastro postillonne sur ses tomates, je peux vous assurer que le lendemain, vous n'arriverez plus à distinguer l'homme de sa production. Une œuvre artistique indépendante des vicissitudes de l'artiste, ça n'existe pas, d'autant que Polanski, niveau trauma, a eu sa dose. C'est un rescapé de la Shoah et en 69, Charles Manson, le gourou timbré au regard moins apaisé qu'un canard qui passe devant un resto de cuisine du Sud-Ouest, a fait tuer sa femme, Sharon Tate, et ben le résultat, il est dans ses films. Il n'y en a pas un seul contenant une scène où Patrick Bosso termine en finale du concours du cri de la mouette à Quiberon. Donc cette souffrance qu'il met dans ses films, on la voit là. On distingue pas l'homme de l'œuvre, mais s'il y a accusation de viol, on la voit plus. Ok, on peut pas aller devant la justice, mais enfin ça va se finir chez Optique 2000. Moi je suis basique, j'ai jamais pu distinguer l'homme de l'œuvre. Pourquoi l'été je suis sur un petit Harlan Coben et pas sur l'œuvre complète de Céline? Eh ben parce qu'il était antisémite. Alors certes, ça m'arrange un peu. Hein, j'espère que Guillaume Musso va violer personne, sinon à la bibliothèque, je saurais plus quoi prendre. Mais enfin, il faut être cohérent. Moi, les témoignages de ces femmes, je les entends et je doute. Et si je doute, ben, le dernier Polanski, je m'en passe. Parce que tout achat culturel est aussi une validation de ce qu'est son auteur. Les gens qui, samedi soir, à Sochheim, près de Mulhouse, viendront me voir en spectacle, ne savent pas que je maltraite Albert Algou. Je l'ai poussé dans l'escalier à la demande de la direction dans le cadre du plan de départ volontaire.
C'est vrai.
Sinon, ils iraient voir quelqu'un de bien.
C'est vrai.
Kev Adams.
Merci, Jean-Pierre Pastoureau. Bravo.
La bande originale. Nagui sur France Inter.
Tu dis c'est samedi soir où?
Sochheim.
On dit comment?
Bah, ils me diront sur place comment on dit. Pour l'instant, je ne fais pas insulter.
Ça a intérêt à bien articuler. Quand
voilà,
même.
C'est près de Mulhouse.
Sochheim.
Voilà.
Ouais,
Sochheim.
Ça sonne mieux, ça sonne mieux comme ça.
Sochheim.
Là, il faudrait pas qu'il y ait un connard qui parle pour interrompre ce moment, c'est tellement beau.
Tu as tellement raison. Allez, des questions sur ce qui se passe dans l'actualité culturelle. Roberto Alagna est notre invité. Vous venez d'entendre un extrait de son nouvel album Caruso. Mais la question que je voulais vous poser, c'est de savoir quelle est la particularité du nouveau dictionnaire qui s'appelle le Dico.
C'est que des mots abrégés.
Il est en braille.
Non.
À l'envers.
Non.
Le Dico.
Roberto, vous avez une idée? Le Dico. Ouais.
Il n'existe pas.
Les définitions sont 140 caractères.
Et c'est sa rédaction qui est plus en cause.
Ah, c'est un langage SMS?
Non, non.
Fait par des jeunes. C'est que les auteurs, ce sont des jeunes qui donnent les définitions. C'est du vocabulaire de tous les jours.
Exactement.
C'est
Wikipédia.
Exactement. C'est Wikipédia.
Ah.
Exactement. Ah. Le dico est basé sur le dictionnaire Wikipédia. C'est-à-dire que c'est chacun y apporte son information. Ce qui pose d'ailleurs certains problèmes, c'est quand il y a des fausses informations et que l'on veut les corriger, c'est impossible. Ah. Il faut que ce soit la communauté qui soit d'accord. Est-ce que vous vérifiez votre fiche Wikipédia?
Non, jamais, jamais. Je sais qu'elle est nulle. Plein d'erreurs, mais bon, donc non, je sais pas.
Ah non, il y en a qui
la
sont...
photo est jolie ou pas? Parce que c'est surtout ça le drame.
Je sais pas, j'ai pas vu non plus.
Ah ouais, c'est horrible.
Je sais qu'il manque une de mes épouses.
Ah.
Ouais, j'ai pas eu l'envie.
Ça, c'est un coup d'une autre épouse.
C'est ça, non, c'est vrai.
Alors, par exemple, des exemples dans Wikipédia, dans ce wiki, dans ce dico, donc dans le wiki dictionnaire, paxage, fait de se paxer, de vivre en concubinage déclaré.
Et c'est bien écrit.
Paxer, unir deux personnes par un pax. Le maire a paxé mon frère, se paxer. Ça, ouais. Enfin, des définitions qui sont pas non plus décoiffantes. Après avoir conquis la France et l'Espagne, maintenant la Chine, je parle de quoi quand je dis ça? France, Espagne, maintenant
Chine. Massinger, non.
La chaude pisse.
Non.
France,
Espagne, Chine. C'est...
Astérix.
Pas loin, ouais. C'est culturel.
Ah, le Puy du Fou.
Exactement.
Mais parce que je l'ai déjà eu sur l'Espagne il y a quelques semaines.
C'est ça, oui, cette question, elle a déjà existé.
Mais c'était Tolède en Espagne.
Mais maintenant, c'est la Chine. Voilà.
C'est toi qui l'as trouvé, je crois.
Est-ce que, justement, le côté mondial dans votre carrière, Roberto Alagna, vous dites et vous pratiquez six langues, vous les avez apprises pour votre métier?
Oui, oui.
Parce qu'il fallait, vous vouliez comprendre ce que vous chantiez aussi?
Oui, bah par besoin et aussi par obligation.
Et parce que les intonations, les tonalités, les accents toniques ne sont pas les mêmes.
Bah, c'est mieux de connaître la langue quand on chante en plusieurs langues. Et voilà, donc j'espère en apprendre d'autres.
Le français est une langue sans accent tonique par rapport à l'italien.
On peut mettre l'accent où on veut quasiment.
Non,
mais
c'est juste qu'il est toujours au même endroit, il est toujours sur la dernière syllabe.
Oui,
mais on peut accentuer en chantant, on peut accentuer où on veut.
Il y a des langues où l'accent tonique change carrément le sens du mot directement. Quel est le pays où vous êtes le plus reconnu?
Bah, c'est la France quand même.
Non, je sais pas, puisque vous êtes mondialement connu.
Oui, je pense
que
c'est la France. Aujourd'hui, il y a beaucoup les États-Unis parce qu'on fait beaucoup, vous savez, dans les salles de cinéma. Donc, il y a toujours de grands écrans à New York et bon, les gens me reconnaissent plus facilement. Mais c'est vrai que la France reste quand même le premier pays.
Et des pays qui vous font rêver, que vous avez envie de séduire, de conquérir? Je sais pas, en Asie, en Amérique latine.
L'Asie, oui, ça, j'en ai fait quelques-uns, pays de l'Asie, mais j'ai pas fait l'Afrique, par exemple. J'ai jamais chanté en Afrique, à part le Maghreb, mais j'ai jamais chanté en Afrique. En
Afrique du Nord,
Sud,
Afrique Nord.
Oui, l'Afrique du Nord, j'ai fait. Afrique du Nord, bon. Vous savez, la Sicile, c'est un peu l'Afrique du Nord.
C'est pas loin, c'est vrai.
C'est pas loin. Et voilà, j'ai chanté en Algérie, j'ai chanté en Tunisie, j'ai chanté au Maroc.
Est-ce que le public se comporte différemment de pays en pays? C'est-à-dire que la manière, justement, on parlait tout à l'heure d'applaudir entre les mouvements. Est-ce que le rapport à l'opéra n'est pas le même en fonction de la culture du pays?
Oui, ça dépend. Par exemple, en Asie, c'est curieux. Les gens viennent, par exemple, travaillent, viennent avec leurs courses et ils viennent au théâtre et ils applaudissent à tout rompre. Ensuite, ils viennent vous faire signer des disques. Il y a quelque chose de spontané,
populaire,
comme ça, de populaire.
Ils ont des tomates aussi dans leur
cabane. Heureusement qu'on en a plus. En raquette, c'est dommage, on pourrait faire de la sauce tomate et puis comme ça, on serait tranquille pour les spaghettis. Mais après, il y a des publics beaucoup plus difficiles, des groupes, toujours des groupuscules. Par exemple, à Madrid, c'est plus difficile, à La Scala, à Milan, c'est des endroits plus difficiles.
Mais où se trouvent les fameux intégristes dont vous parliez de l'opéra,
oui, quelques-uns, oui. Mais à New York, les gens vont pour le plaisir. Ils viennent s'acheter une place de théâtre comme ils iraient à la comédie musicale. Voilà, pour le plaisir, il y a certains pays, on y va avec l'envie déjà de démolir avant d'avoir vu, avant d'avoir écouté.
Mi par d'udir ancora ascoso in mezzo ai fiori.
Pour le profane que je suis, c'est quand même l'italien qui va le mieux à l'opéra, j'ai quand même l'impression.
Non, pas du tout, toutes les langues fonctionnent.
Daniel, t'étais d'accord avec moi, non?
Je sais que c'est un dossier avec Roberto Alagna, ça l'énerve quand on lui dit qu'il y a des langues.
Non, parce que là, on a un exemple, la version en français des Pêcheurs de Perles. Ouais.
Normalement, la version originale est en français.
Voilà. D'accord.
Donc, moi, je l'ai enregistré déjà dans un précédent disque. Et donc, j'ai choisi cette version parce que Caruso a chanté deux versions, la version italienne et la version française. Et donc, j'ai choisi celle-ci avec piano parce qu'elle est un demi-ton en dessous de l'original, alors que la française de Caruso était un ton plus bas.
Mais qu'est-ce qui vous empêcherait de changer la tonalité de la chanson
française? Je le fais dans le style Caruso, je le fais. D'ailleurs, on n'a pas été fidèle à 100% parce qu'il aurait fallu baisser tout le disque. Puisque le diapason à l'époque de Caruso, c'est encore le diapason de Verdi, il est à 432, il est plus bas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on chante avec un diapason beaucoup plus haut. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir la liberté qu'ils avaient à cette époque-là. Ils connaissaient les compositeurs, ils ajustaient, dans le Guarani, là, qu'on a entendu tout à l'heure, ils ajustaient. Si une phrase était trop tendue, on abaissait, un peu comme font les chanteurs de populaires d'aujourd'hui avec les compositeurs d'aujourd'hui. On ajuste selon l'interprète.
La tonalité, d'accord.
Mmh.
J'ai jamais osé vous poser la question, Roberto Alagna. Quand vous chantez, des chansons standards de la vie de tous les jours avec votre voix, pas d'opéra, est-ce que vous aimez votre voix?
En général, on n'aime pas
s'entendre.
Personne n'aime s'écouter, puisque nous, on a un son à l'intérieur. Même vous, quand vous parlez, si ensuite vous entendez votre voix,
c'est un drame après.
Voilà, on entend. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'entendra jamais sa propre voix naturellement.
C'est vrai.
Voilà, donc, mais on s'y habitue à force. C'est un peu aussi comme le physique, quand vous voyez des photos, on n'aime pas cette photo.
Il y en a qui s'habituent ici. Hein.
Voilà. Et puis quand on la revoit 10 ans plus tard, on se dit, elle était pas si mal.
Ouais, voilà,
c'était pas si mal.
Donc votre voix chantée standard.
Tout, même ma voix d'opéra, j'ai du mal à m'y faire. Je préfère la voix des autres.
C'est fou.
C'est normal. Mais je m'y habitue et puis bon, je m'en contente.
On ne se fait ni à sa voix ni au reste, et pourtant on s'en contente.
Merci.
Quelle ordure.
Et pourtant, aujourd'hui est un jour de fête en France, et un anniversaire, mais pas n'importe lequel. Oh, et les amis, aujourd'hui, Nagui, il a son âge, et puis voilà.
58 ans, j'assume.
Mais qui est Nagui? Qui est cet homme qui, comme Tex, n'a pas de nom de famille? Que les hommes adorent, comme Kylian Mbappé, qui excite les femmes, comme moi, qui fait rire les enfants, comme Jean-Michel Blanquer, qui fait pleurer les lycéennes, comme Jean-Luc Ley. Oh, tout a-t-il souri au presque animateur préféré des Français? Non. Non, loin de là. Nagui est né à Alexandrie. Alexandrie, ville de lumière, d'esprit et de progrès il y a 2300 ans, mais qui depuis la naissance de notre héros a intellectuellement beaucoup perdu. Une enfance difficile, passée dans la rue où très tôt pour survivre, il apprend à chaparder comme un Albanais. Où la nuit, affamé, il mange des animaux crus comme un Serbe. La vie précaire, faite de petits larcins qui le conduisent irrémédiablement en prison. En prison, il côtoie des voyous de tout genre qui lui donnent la fibre de l'escroc. Une fibre qu'il a su entretenir et qui lui a permis de réussir dans le milieu du show business. Après la prison, ça va mieux pour lui. À la sortie de la prison, il a 18 ans. Il est beau comme un enfant, fort comme un homme, ce qui ne manquera pas d'inspirer une chanteuse égyptienne qui louche et qui un peu plus tard deviendra sa maîtresse. Mais à sa sortie de prison, il est sans ressources, comme le sera probablement Balkany, et accepte un emploi de réinsertion, comme le fera probablement pas Balkany. Pour cause d'absence de diplôme, il fait avec ce qu'il a, son physique. Et à 18 ans, quand on mesure 73 cm, on n'a pas beaucoup de choix. Par chance, un poste de schtroumpf se libère dans un parc à thème. Il a les mensurations parfaites et devient le nouveau schtroumpf farceur du schtroumpfland d'Alexandrie. Mais même si être schtroumpf, c'est bien, Nagui se lasse. C'est là qu'il se met en couple avec la chanteuse Kilouche. Il vit avec elle une aventure aussi folle que sensuelle. Puis un jour, il rencontre Orlando, le frère de la loucheuse. C'est le coup de foudre. Nagui demande Orlando en mariage, mais ça ne se passe pas comme prévu. En amour, rien ne se passe comme prévu, comme disait Michel Fourniret. Orlando, qui n'est pas la dernière des petites souillons, ne veut pas se marier.
Mais...
il préfère multiplier les conquêtes et donner son corps en pâture au vice. Tous les soirs, Orlando sort en boîte, en club. Il exhibe son corps en sueur qu'il recouvre d'huile de vidange sur les podiums aussi interlopes que sordides. Pendant ce temps-là, Nagui l'attend à la maison en robe de chambre, en train de coudre des slips en cuir. Nagui est inconsolable, mais il se reprend. Oui, il est décidé à réussir sa vie, un vrai petit Bernard Tapie. Il quitte Orlando, il veut connaître le frisson de la grande aventure, de l'entrepreneuriat. Pardon. Il se lance avec un succès fulgurant dans le proxénétisme de personnes âgées. En 6 mois, son cheptel de gagneuses dépasse les 200 pouliches des Amazones âgées de 65 à 102 ans, qui, grâce à leurs prothèses amovibles, attirent les pervers du monde entier. Mais le succès qu'il a en tant que macro ne lui suffit pas. Oh non, il en veut plus. Et ce plus, c'est un de ses clients, amateurs de vieilles déhanchées, qui va lui apporter sur un plateau. Cet homme, c'est Guy Lux, un animateur télé à la coupe de cheveux étrange et au phrasé intrigant. Guy Lux deviendra son mentor. Il lui apprendra toutes les ficelles du métier, avec qui coucher, à qui filer des enveloppes, quelle drogue utiliser, bref, les bases pour rentrer, mais surtout pour durer à la télé. Nagui suit les conseils de Guy à la lettre et le succès est immédiat. Il côtoie les plus grands à qui il rend service et fait de nombreux cadeaux. Claude François, qu'il refera gratos toute l'électricité de sa salle de bain, malheureusement sans prise de terre. Mike Brandt, à qui il offrira une baie vitrée, malheureusement sans vitre. Aujourd'hui encore, il est l'ami des plus grands. Christophe Maé, Larousseau, Plastique Bertrand, Pascal Pro, Jean-Marc Morandini, Dupont-Moretti, Dupont de Ligonnès, Dupont-Aignan, Dupont et Dupont. Bref, le gratin, c'est un homme comblé.
Avec France Inter, il cartonne. Avec France 2, il cartonne. Avec son micro-pénis, il fait ce qu'il peut. Mais il fait avec. Il est proche de l'élite politique, culturelle, fiscale. Qui oseur égyptienne de ce petit homme plein de ressources aurait dit qu'un jour, il réussirait à fréquenter Daniel Morin. Pas grand monde, pour ne pas dire personne. À part son physique, il a vraiment tout de grand aujourd'hui. Même son âge. Bon anniversaire, Nagui. Alors à demain pour fêter dignement les 87 ans de Pétula Clark.
Merci.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Et avec Roberto Alagna. Leïla, qu'est-ce que cette interprétation de Caruso et du répertoire de Caruso de Roberto Alagna t'évoque?
Ce que je trouve très touchant, c'est le parallèle entre vos deux vies, vos deux itinéraires. Et l'interprétation, notamment aux Lumières du Jour, moi qui m'a complètement bouleversée.
Ouais. Elle est là. Marina, la voix de Roberto Alagna.
La voix, je ne sais pas, mais la présence, je trouve qu'il y a un enthousiasme extrêmement communicatif qui est très agréable. J'ai envie que vous fassiez des nouveaux convertis. Leonard Bernstein, il avait des cours sur NBC à l'époque pour introduire les enfants à l'opéra, à la musique classique et tout,
quoi.
Exactement.
Ouais.
Et je sais pas, ça vous irait bien, quoi. Je trouve que ça donne envie.
Merci, c'est gentil.
Tanguy,
la voix de Roberto, c'est une bulle. On se sent bien, un peu comme dans ces petits clubs qu'on fréquente parfois le samedi.
Merci. Daniel Morin.
Alors moi, je suis pas du tout objectif. Moi, non seulement j'aime le chanteur, mais j'aime l'homme aussi, Roberto Alagna. Il le sait.
Non,
j'arrive pas. Et j'ai beau écouter Caruso, j'ai beau écouter le disque Sicilia, c'est Roberto que j'entends derrière et j'entends pas l'hommage qu'il rend, malheureusement, peut-être, mais c'est comme ça.
Merci, Dani.
Albert.
Le plaisir et l'enthousiasme communicatif de Roberto, c'est un plaisir, cet album, et c'est une merveille.
Roberto Alagna, qu'est-ce que
vous, Nagui?
Mais moi, je vous ai dit, ça me donne des frissons.
Ah, oh, bah c'est pas mal, c'est
ça. Ça me donne
le but,
des frissons. Ça
c'est
me donne
le meilleur baromètre.
De l'émotion.
À cet âge-là, avoir encore des sensations, c'est quand même bon. Hein, c'est quand même bon.
Roberto Alagna, le 6 février, ça sera Caruso 1813 au Théâtre des Champs-Élysées. Et le 19 septembre 2020, Carmen, avec votre douce et tendre Alessandra Courjac, mais également Béatrice Uria Monzon et du monde, puisque
oui,
vous
beaucoup,
serez
beaucoup
des centaines à interpréter devant des milliers de personnes au Stade de France le 19 septembre. Merci beaucoup.
Merci.
Roberto Alagna, portez-vous bien. Demain, Nicolas Dubochel sera notre invité.
Oh, yes.
Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée, Philippe.
Merci.